Marceau le midi. Avec Marceau, Pascal CV et Thomas Gauthier.
418-971-1021, si vous avez des choses à nous dire. Midi 3, comment ça se passe sur la route?
Ça va super bien du côté de Capitale Ouest. J'en parlais tantôt à la hauteur de Robert Bourassa, c'était difficile, mais là, de ce côté-là, ça va mieux. Par contre, on a eu des détails. Je vous disais qu'il y avait un accident dans le secteur de Charlebourg. C'est une violente collision, là. Puis selon ce que je vois avec les images, Journal de Québec, il y aurait un capotage. Il y a vraiment quelqu'un qui aurait carrément viré et aurait terminé. Le véhicule aurait terminé directement sur le dos. Puis il y a un lampadaire aussi qui a été carrément frappé. Même chose pour des lumières de circulation. L'incident qui s'est produit vers 11h à l'intersection de la 1ère avenue puis de la 41e rue.
Ce qui est triste, en fait, c'est que c'est un camion cube puis un véhicule de transport écolier qui est impliqué. Là. Fait que c'est pas mal ça qui attire l'attention là, à l'intersection de la 1ère avenue et de la 41e rue.
Exact. Puis les circonstances de l'accident, bien, ils restent à éclaircir. Donc, on va voir si on va avoir plus de détails en lien avec tout ça.
Au moins, on sait qu'il n'y avait pas d'écolier dans la camionnette.
Exact. Il n'y a pas de blessés. C'est le... Voilà.
Voilà. Midi à 4 minutes, on s'en va rejoindre Stéphane Leblon de chez Leblon et Associés, syndic autorisé en insolvabilité. Salut, Steph!
Salut, Yannick.
Je t'ai appelé ce matin, justement, parce que je voulais en savoir plus sur le cas de Piscine Élégance. On en a parlé régulièrement dans l'actualité. Ce gars-là avait sensiblement mis en place un système pour arnaquer et surfacturer ses clients. En fait, il arrivait, vous voulez une piscine, on va vous poser une piscine, voici comment ça va vous coûter. Puis au fur et à mesure qu'il y avait des étapes, différentes étapes qui arrivaient, finalement, le fond est plus dur qu'on pensait. Ça va coûter 15 000 $ de plus parce que je dois louer telle machine.
On a déjà commencé les travaux.
Ouais. Il y en a qui ont payé 120 000 $ de plus l'installation
de leur piscine.
Oui, c'est ça. Donc, tu comprends qu'il y avait énormément de gens qui étaient mécontents. Cette entreprise-là, Piscine Élégance, a régulièrement passé dans l'actualité avec aussi une autre entreprise, là, une entreprise d'excavation qui appartient à l'ancien vendeur de drogue...
Patrick Lorando.
Et là, ce qu'on apprend, c'est qu'ils ont décidé de faire faillite pour ce qui est de Piscine Élégance, du moins. On parle d'une faillite de 670 000 $. Quand on regarde le background de Dominique Flamand, il n'en est pas à sa première faillite. Quand tu as lu l'article, toi, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que c'est encore possible de faire des faillites comme ça à répétition sans jamais avoir de problème autre que d'aller rencontrer un syndic autorisant d'insolvabilité, puis après ça, on repart sur un autre nom?
Bien, c'est pas aussi simple que ça. T'sais, pour mettre la compagnie en faillite, bien, tu te présentes chez le syndic, tu remplis la paperasse appropriée qui est en gros là, faire une liste des actifs que la compagnie a là, la liste des créanciers, puis il y a quelques autres paperasses. Là. Ça, c'est pas bien long. Sauf que dans les devoirs de la personne qui représente la compagnie qui a fait faillite, un de ses devoirs, c'est de se présenter à l'Assemblée des créanciers qui a lieu généralement 3 semaines après la date de la faillite. Lors de cette assemblée-là, la personne doit y assister, puis les créanciers peuvent y assister aussi. Puis ils peuvent poser des questions aux représentants de la compagnie sur les affaires de la compagnie, sur ce qui est arrivé à des actifs, des questions là de n'importe quelle nature relativement aux actifs, aux activités passées, puis au passif de la compagnie. Puis si les créanciers, ils décident, lors de l'Assemblée des créanciers, de nommer des inspecteurs à la faillite, ça, c'est des gens qui sont choisis par les créanciers pour aider le syndic dans son administration. Alors, les inspecteurs peuvent demander au syndic de procéder à un interrogatoire du représentant de la compagnie qui fait faillite. Ou s'il n'y a pas beaucoup d'argent dans le dossier, le syndic peut demander au séquestre officiel de procéder à cet interrogatoire-là. Puis si le séquestre officiel, le résultat de son interrogatoire, c'est qu'il considère qu'il y a nature à déposer une plainte auprès de la Gendarmerie royale du Canada, il dépose sa plainte à la Gendarmerie royale du Canada, elle va faire son enquête, puis s'il y a lieu, ils vont soumettre le dossier à un procureur de la Couronne qui, lui, va prendre des procédures pour faire condamner la personne si c'est de la fraude ou si c'est d'autres infractions en vertu de la loi sur la faillite.
Parce que là, Piscine Élégance dit, ils ont cumulé des dettes de 670 000, mais ils disent, eux, ne pas avoir d'actifs. Ils travaillaient avec quoi?
Ça va faire partie là, des questions qui vont être posées par les créanciers lors de l'Assemblée des créanciers, puis qui peut amener à un interrogatoire devant le séquestre officiel. Mais ça se peut que ce soit parce que la compagnie elle faisait affaire avec des sous-traitants pour toutes les phases d'opération. Ou encore que c'était des outils qui étaient loués. Tu vois, chez Joe Lutou, tu loues un compresseur, tu loues un compacteur, tu loues un paquet d'affaires comme ça. Puis tout ce qui reste c'est comme actif, comme outil de la compagnie, c'est des affaires qui valent pas grand-chose. Ça se peut, ça.
Mais j'ai quand même beaucoup de questions, moi, par rapport à ça. Puis c'est pour ça que je questionnais Yannick. T'sais, c'est pas la première fois, là, on a piscine élégance dans l'actualité, mais c'est pas la première fois que j'entends justement cette facilité, entre parenthèses, là, pour certaines personnes de s'appuyer sur la faillite. Puis on l'a vu aussi avec, pas nécessairement que des fraudeurs, mais des gens qui ont mal géré leur argent pendant la jeunesse, qui pour eux, ben, c'est une solution comme une autre de faire faillite. Quand, dans ma tête, c'était le démon, la faillite. C'est quand tu étais rendu là, c'est que ça s'était vraiment mal passé, tu te taisais, c'était tabou, tu n'en parlais pas. Maintenant, ça semble être un outil.
Bien, c'est un outil. C'est le but de la loi sur la faillite, c'est de permettre à un particulier ou une entreprise qui n'est plus capable de payer ses dettes de tirer une ligne puis de repartir à neuf. L'avantage de la faillite, dans ce cas-là, c'est que c'est un processus qui est transparent. Les créanciers peuvent poser des questions, sont en droit d'obtenir des réponses. Puis s'il y a des choses pas correctes qui ont été faites, bien, ils peuvent être réprimés. Puis quelqu'un qui va en être à sa deuxième, troisième, quatrième, cinquième faillite d'entreprise, bien, il peut avoir plus de problèmes à obtenir du crédit dans le futur. C'est le mauvais côté de ça. Puis il peut avoir de la difficulté, plus il traîne de cadavres d'entreprise, plus ça va susciter des questions par les autorités, entre autres les autorités fédérales qui sont le surintendant des faillites puis les séquestres officiels.
Mais est-ce qu'on sanctionne réellement ou c'est plutôt juste des yeux qui seront tournés vers ces entreprises-là si ça fait 5 à 6 fois, par exemple?
Bien, il y a des sanctions, effectivement. Oui, il y a des sanctions qui sont réellement données à ces entreprises-là, là. Ou aux représentants de ces entreprises-là s'ils étaient responsables des niaiseries qui ont été faites.
OK. Je veux vraiment qu'on sépare l'entreprise de la personne. Là. Lui, là, Dominique Flamand, son entreprise doit 670 000 $. Une fois qu'il va passer chez le syndic autorisant d'insolvabilité, c'est vraiment juste l'entreprise. Lui, ses finances personnelles ne seront pas importunées.
Bon, ça, c'est une bonne question. Alors, l'entreprise a beau avoir 600 ou 700 000 $ de dettes, il peut avoir une partie de ces dettes-là dont il est responsable personnellement, que ce soit parce que il a endossé ces créanciers-là. Mettons, il a ouvert un compte chez Joe Lutou. Puis, Joe Lutou, il dit, ah, sais-tu, gars, mon jeune, je fais pas trop confiance à ton entreprise. Fait que signe donc une deuxième fois comme caution pour les dettes de l'entreprise. Alors, à ce moment-là, il est responsable personnellement. Puis il peut avoir des dettes dont il est responsable parce qu'il est administrateur de la compagnie. Alors, si la compagnie, elle doit de la TPS, de la TVQ, des déductions à la source, des salaires à des employés, ça peut tout être des dettes qui vont ultimement retomber ses épaules de l'administrateur de la compagnie.
OK. Même si c'est l'entreprise qui fait faillite.
Oui.
OK. Puis ça, est-ce que c'est TPS, TVQ, là? Tu sais, moi, par mon entreprise, je perçois TPS, TVQ des clients, puis après ça, je renvoie ça au gouvernement. Mais si jamais c'était mon entreprise qui fait faillite, est-ce que je suis obligé de rembourser si j'avais pas... OK, parfait.
Parce que, tu la détiens à titre de fiduciaire. C'est pas ton argent, toi, qui collecte des clients. T'sais, tu la remets, tu as le droit à certains crédits sur ce que tu payes en TPS, TVQ dans le cadre de tes opérations, mais tu es fiduciaire de la balance, là.
OK. Puis pour ce qui est des hypothèques légales, de ce qu'on comprend, là, c'est qu'il y a énormément d'hypothèques légales sur ces avoirs. Comment ça fonctionne, ça, Steph? Moi, j'ai un ami qui faisait des piscines, c'est quelqu'un d'honnête, c'est mon chum, mon ancien voisin Marco, qui il a dû prendre une hypothèque légale sur la maison parce que le client tardait à payer. Ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça quand c'est nous qui avons l'hypothèque légale sur notre maison?
Bon, si le client il a une hypothèque légale sur sa maison de X 1000 $, bon, l'avantage de la faillite, c'est qu'il va négocier directement avec le syndic. Puis le syndic, lui, il va enquêter. Il va faire une enquête sommaire. Il dit, ouais, ça vaut-tu vraiment le montant de l'hypothèque, là, c'est le solde des travaux? Puis plus souvent qu'autrement, ils vont faire un règlement, puis le syndic va se désister de l'hypothèque légale, puis il va la faire radier au bureau de la publicité des droits. Dans certains cas, ça peut être légitime que l'hypothèque légale ait été publiée. Puis s'il n'y a pas d'entente possible entre le syndic à la faillite puis le client, ben ça va aller devant la cour. Puis ça, il va obtenir un jugement ou il va avoir une ordonnance pour vendre l'immeuble en justice. Mais c'est rare qu'on se rend là. Okay. Le syndic, lui, ce qu'il veut, c'est un règlement rapide, un règlement dans le meilleur intérêt des créanciers. Puis un règlement dans le meilleur intérêt des créanciers, ça veut dire de ne pas le manger en frais d'avocat ou en honoraires inutiles. Okay. Il va chercher la solution qui va attirer la somme nette la meilleure pour les créanciers.
OK. Puis pour ce qui est des hypothèques légales, dans le cas de Dominique Flamand, de ce que je comprends, c'est qu'il y avait 5 hypothèques légales sur sa maison. C'était Revenu Québec qui semblait être présent, son ancienne conjointe, une compagnie d'ébénisterie, puis on me dit un client qui a été floué par Dominique Flamand. Ça, n'importe qui peut prendre l'hypothèque. Ah, il y avait le procureur général du Québec aussi qui réclamait de l'argent.
Okay. Bon, alors pour ce qui est de l'État bénéficie d'un fast track, là, comme ils disent à l'Académie française, là, pour pouvoir publier des hypothèques légales. Alors, ils émettent un certificat qui a la valeur d'un jugement, puis ils peuvent publier contre non seulement les immeubles, mais les meubles aussi. Ils vont au RDPRM, ils peuvent publier contre les véhicules et autres actifs de la personne. Quelqu'un qui détient un jugement, comme un ancien client qui aurait obtenu un jugement de 25 ou 30 000 $, il peut publier l'hypothèque légale résultant d'un jugement. Même chose, son ex-conjointe, si elle a un jugement, que ce soit pour la créance résultant du partage du patrimoine familial ou des arrérages de pension alimentaire ou des affaires de même, elle a un jugement, elle peut le publier. Mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils vont être payés. Parce que si la maison, mettons, elle vaut 300 000 puis il est dû 300 000 au créancier de premier rang, bien, tu aurais beau publier une hypothèque légale d'un million, c'est le créancier qui a publié le plus tôt, soit, tu sais, je sais pas, mais la Caisse populaire ou la Banque royale, qui va pouvoir faire vendre la maison en justice puis récupérer ses billes en premier.
Mais comment est-ce qu'on peut prévenir ça pour des gens qui vont se faire leurrer, pour le petit peuple ou les entreprises qui ont décidé justement de faire affaire avec ceux qui officiellement sont fraudeuses? Là. Finalement, c'est un quitte ou double?
Bien, c'est pour le client, comment il peut se prémunir de ça? Bien, tu sais, il y a des facilités d'obtenir des informations à l'Office de la protection du consommateur, parce que ces gens-là sont supposés avoir des permis, que ce soit la Régie du bâtiment du Québec, que tu peux appeler là. Ils ont un service qui sert juste à ça pour donner l'information. Puis tu peux aussi contacter un procureur. Là. C'est parce que les gens ont peur de dépenser 300, 400, 500 pour avoir une bonne opinion sur l'étendue de leurs droits, puis l'étendue des droits de l'entrepreneur. Puis ils veulent pas. Là. Ils veulent pas le dépenser le 500, mais ils se ramassent dans le trouble aussi. Là. Alors, il suffit d'être prudent. Il y a un paquet de ressources pour s'informer. Puis quand ça n'a pas d'allure, ce que l'entrepreneur dit, bien, fais tes recherches.
Une responsabilité personnelle.
Voilà. Stéphane Leblon, merci de t'avoir rendu disponible avec nous autres ce midi.
Ça m'a fait plaisir.
Bye-bye. Stéphane Leblon de chez Leblon et Associés, syndic autorisé en insolvabilité. On parlait du cas de Dominique Flamand. Du cas de Dominique Flamand, puis on va nommer son partenaire d'affaires aussi qui est souvent nommé dans son aventure. C'est Patrick Laurendeau qui était son sous-traitant préféré, Excava Plus ou Ramonage Plus. Là, ouais. Il y avait deux noms pour ce qui est de son entreprise. Puis les deux, ben, ils surfacturaient pour des clients qui avaient déjà, à partir du moment où le processus était entamé, trouvaient tout le temps des petites façons de demander des extras de plus. Puis il y a même un client qui a payé 120 000 $ de plus pour sa piscine creusée.
Ça n'a pas de bon sens.
Ça n'a pas de bon sens. Puis en même temps, je m'imagine juste essayer de convaincre de un, ma blonde, d'avoir une piscine creusée. Moi, ça fait partie de mes rêves, là, d'avoir une belle piscine creusée.
On a un rêve en commun. On a quelque chose en commun.
Oui, hein? Mais tu ne seras jamais ma blonde.
Non. Ça l'espoir fait vivre, Yannick, ouais. Mais là, il va falloir que tu aies beaucoup d'espoir.
La piscine serait beaucoup trop grosse. Je n'ai pas besoin de ça. mais cela dit, tu sais, mettons que ça coûte 100 000 une piscine creusée. Ouais, ouais. OK? Puis là, ben, tu réussis à convaincre ta blonde d'embarquer dans l'aventure parce que c'est bon pour les enfants, puis on va se reposer autour de la piscine, puis on va avoir donc ben du plaisir et tout ça. Tu commences à bâtir, puis là, facture finale, c'est 120 000 $ de plus. Là.
Mais toi, tu serais capable de t'obstiner.
C'est 220. Moi, je...
non, non, tu connais la construction.
Regarde, remplis-moi le trou, tu décalisses.
Ah, c'est ça que tu dirais?
C'est sûr. Non, non, mais touche à rien. Je vais coller des chums. Là. Ils vont venir avec le camion, ils vont remplir le trou, je vais mettre de la pelouse là-dessus.
Il y a plein de gens qui pensent qu'ils peuvent même pas faire ça parce que ça va être plus problématique que d'autres choses.
Mais tu sais, à un moment donné, on se ramassera en cours. Le problème étant que ces deux-là intimidaient beaucoup leurs clients.
Oui. Ça venait avec.
Il y a d'ailleurs des plaintes au service de police de la Ville de Québec qui ont été envoyées. Donc, Piscine Élégance, Dominique Flamand, qui cumule des dettes de 670 000 $. C'est des chiffres qu'on peut voir dans un document de faillite qui est daté du 11 mars dernier et qui a été consulté par le dossier d'enquête, le bureau d'enquête de Québecor. Donc, il y a une quarantaine de créanciers. Il y a Revenu Québec qui est là-dedans, Banque Scotia. Il y a une douzaine de clients avec qui elle avait des démêlés judiciaires. Les consommateurs considèrent pour la plupart qu'ils ont perdu ces sommes d'argent-là. Et ce qu'on nous dit, c'est que, tu sais, il n'y a pas terminé.
Puis avant de faire un... Comment dire? Moi, admettons, je me mets dans la peau de certaines personnes qui pourraient se faire avoir dans ce genre de truc-là. Avant de payer, dans le pire des cas, parlez-en à des gens autour de vous.
Steph l'a dit. Investissez 500$ puis demandez l'aide de professionnels dans les dossiers que vous n'avez pas les réponses. Vous allez être aiguillé, vous allez savoir quoi faire très rapidement. Puis, tu sais, je parlais des deux champions, là, de propriétaires de Piscine Élégance puis d'Excava Plus. Ils ont déjà reparti des entreprises sur un autre nom, là. Ils sont déjà repartis, là. Fibre de verre pro, ça c'est Dominique Flamand qui a incorporé Fibre de verre pro, qui est une entreprise qui se dit spécialisée dans l'installation de piscines privées. Puis tu as Patrick Laurendeau, lui, qui a démarré les constructions Rosa, qui donne maintenant dans les travaux d'excavation le nivellement, la construction puis la rénovation de bâtiments résidentiels. Problème étant que quand le bureau d'enquête de Québecor a vérifié, c'est qu'ils n'ont pas leur licence de la RBQ. On parle de champion de course.
Mais c'est ça qui est triste, puis c'est pas, en tout cas, la première fois qu'on entend parler d'histoire de même.
Puis ces gens-là, dans le privé, sont peut-être super sympathiques, mais en affaires, ils agissent pas correctement. Mm-hmm. Puis à un moment donné, ben c'est important qu'il y ait des dossiers qui soient faits sur ces gens-là. Puis je voulais vraiment qu'on spécifie, c'est Pascal qui avait eu l'idée de ça ce matin, qu'on spécifie vraiment c'est quoi la différence entre l'entreprise puis la personne derrière l'entreprise. Tu sais, si tu as ton entreprise... mais tu ne verses pas la TPS et la TVQ, au niveau personnel, tu vas devoir la verser. Fait que si tu l'as dépensé, mettons, je prends un exemple là, proche de moi, là. Pas de proche de moi. En fait, il n'est plus proche de moi, il ne m'aime pas bien. Mais lui, il prenait la TPS et la TVQ, puis il allait dans un restaurant avec ça. Puis il s'achetait du linge avec ça, il s'achetait des calottes, il s'achetait des gilets de hockey, il dépensait, il voyageait. Il prenait la TPS et la TVQ, ben il a dû... il est responsable de ça. Donc, dans ses finances personnelles, il a dû compenser quelque part. Mm-hmm. Puis parfois, ça peut même... L'entreprise fait faillite, puis l'individu fait faillite aussi. Ça peut aller loin, là. C'est mais juste qu'il y en a qui réussissent à s'en sortir.
Mais c'est ça que tu disais tantôt. Si, ici, l'entreprise fait faillite, on doit repayer directement la TPS TVQ. C'est ce que tu disais tantôt.
C'est t'es fiduciaire de l'entreprise.
C'est ça.
Ben, c'est ça. Parce que sinon, ce serait du vol.
Exact. On suit.
Il faut pas voler le gouvernement. Le gouvernement peut te voler.
Mais nous autres, on n'a pas le droit.
Mais toi, t'as pas le droit. OK. Y a-t-il d'autres choses à jaser avant de faire une petite pause? Il est quelle heure? Midi 21? On va faire une pause, puis on va revenir avec un bon bloc de nouvelles par la suite. 88-971-1021. 88-971-1021, si vous avez des choses à dire, c'est par texto. Puis on salue la belle communauté sur Twitch. Yeah. Une cinquantaine de personnes, des gars, des filles super sympathiques avec qui vous pouvez aller jaser. Il y a des caméras en studio. Les trois sont fixés sur Pascal.
Non.
Donc, allez sur Twitch. BLVD, bord en bas.
Je les ai réquisitionnés, vous me connaissez, j'adore ça.
Exact.
Ben oui.
Devant, de côté. C'est ça. C'est tout.
C'était la pause.
Boulevard 102.1. Mars.